Bonjour à tous, merci d'être venus aussi nombreux pour cette table ronde intitulée « La science-fiction asiatique, un panorama ». Cette année, les Utopiens ont des invités d'honneur qui seront chinois et taïwanais. Et nous allons pouvoir commencer cette table ronde en temps et en heure. Juste à ma droite, nous avons Xiaomei. Nous avons ensuite Jujushi. Ah mince, il y a eu un. On s'est trompé sur l'ordre. Nous avons. Tu peux faire les présentations, au pire.
Je vais faire les présentations. Voilà. Donc celle que vous venez d'applaudir, c'est donc Hao Jingfang, Gao Yifang, Zhu Zhenshi et Gwenaël Gaffry.
Qui est traducteur, que certains lecteurs connaissent peut-être pour sa traduction du problème à trois corps, publié chez Actus Sud, dont volume 2 vient de tout juste de sortir, théoriquement. Et on a donc l'intérêt de poser des questions assez généralistes pour vous faire connaître l'état de la science-fiction en Chine. Je te laisse, tu me dis quand il faut faire des pauses pour l'interprétariat. Et aussi vous faire connaître qu'est-ce que c'est que la science-fiction dans une littérature et d'autres arts que l'on connaît très peu en fait de notre point de vue européen. Et ma première question justement, est-ce qu'il y a une histoire de la science-fiction en Chine? Est-ce que c'est quelque chose de nouveau? Ou est-ce que c'est quelque chose d'ancien qu'on redécouvre, nous, Européens, à l'heure actuelle?
Bonne journée à tous. Je peux parler un petit peu de français, mais je ne peux parler de pas très bien. Donc, je parle la chinoise. Merci pour les traducteurs. 我现在接下来就用中文来回答，就是中国的科幻实际上在清朝末年，就是从十九世纪末二十世纪初的时候已经开始有一些创作了。清朝末年的时候，有一些文学家，当时还有一些幻想去月球的小说，以及老舍先生一个著名的中国作家也写过一个叫《猫城记》的非常杰出的科幻小说，但是当时大概也只是十年二十年的时间，非常短暂的一段时间。后来中国就进入了漫长的战争时代，这个科幻小说的源头就断掉了。
Alors, la science-fiction, elle commence en Chine à la fin du 19e siècle, à la fin de la dynastie Manchu des Qing, avec quelques auteurs qui commencent à écrire ce qu'on appelle à l'époque des romans scientifiques, notamment des romans qui parlent de voyages sur la Lune. Également un auteur qui s'appelle Lao She, qui a écrit le roman La Cité des Chats, qui est un roman un peu dystopique, qui a été traduit en français. Mais toutes ces expérimentations littéraires autour un petit peu d'un genre qu'on appellerait aujourd'hui la science-fiction, s'est arrêté au bout de 10-20 ans, puisque la guerre a commencé.
After the war, 这个时候出现了很多优秀的科幻作品，但是那个时候的科幻作品普遍是以科普的目的为主，是给青少年看的一种文学形式。
Alors par la suite, pour aller un peu vite, à la fondation de la République populaire de Chine en 1949, la science-fiction était encore très rare. On était dans une période révolutionnaire où c'était pas le genre le plus approprié ou le plus recherché. Et c'est finalement à partir des réformes du début des années 80 que la science-fiction va refaire un peu son apparition en Chine. Mais à cette époque, la vocation, la motivation des romanciers de science-fiction, c'était davantage de faire de la vulgarisation scientifique, et les romans étaient davantage destinés à un public de jeunes et d'adolescents.
我小学的时候就 80年代就读过一些当时的科幻作品，像郑文光先生的科幻小说，当时就很喜欢。后来到了90年代，开始涌现真正的现代意义上的科幻作家，像刘慈欣，就是从90年代开始写作的，他们的作品非常的成熟，题材也很多样化。
Et donc par la suite, moi je suis né dans les années 80 et j'ai lu quand j'étais enfant des romans de science-fiction de ce type-là, un peu à vocation vulgarisation scientifique, que j'aimais beaucoup, ceux de Zheng Wenguang par exemple. Et c'est à partir des années 90 que la science-fiction chinoise va gagner en maturité, en diversité également, avec un auteur comme Liu Cixin par exemple.
在那段时间1990年代，当时最主要的科幻的领域是科幻世界这本杂志，这本杂志当时推出了大概有4-5位著名的科幻作家，到现在也是活跃在中国科幻小说的一线，刘慈欣、王靖康、韩松等等老师，这段时间也为中国培养了大量年轻的科幻读者。
Et alors dans les années 90, un magazine en particulier, un magazine qui s'appelait Le Monde de la Science-Fiction, a fait naître et a fait émerger des figures de la littérature de science-fiction en Chine qui restent célèbres et extrêmement importantes aujourd'hui, comme Liu Cixin, donc l'auteur de la trilogie du problème à trois corps, Wang Jingkang, Han Song et d'autres. Et ces auteurs qui ont émergé à partir de ce moment-là dans ce magazine ont finalement donné naissance aussi à une nouvelle génération, à de nouvelles générations d'écrivains parmi nous.
这一代作家很多的特点是他们会非常注重 很硬的科学和技术，像以刘慈欣为代表的一些作家比较喜欢写一个宏大的这个世界观、宇宙观还有技术设定，到了2000年之后呢，会有一些新的年轻的作者成长起来。这些作者在自己大概10几岁、20岁的时候就开始写作，所以他们的风格会很多样化，写很多日常生活。
Alors à cette époque, les écrivains qui on va dire commencent vraiment à écrire dans les années 90, pour la majorité d'entre eux, sont davantage intéressés par la question des technologies, la question de la science, c'est ce qu'on appelle des fois la hard science-fiction, dont Liu Cixin est l'un des principaux représentants, avec des ambitions souvent très grandes, de parler de l'univers, d'aller très loin. Et à partir du début des années 2000, d'autres auteurs, des jeunes auteurs, vont commencer à écrire davantage sur la vie quotidienne, ou en tout cas des sujets moins ambitieux, à première vue.
然后所以现在像 在中国目前科幻还是非常多样化的，老一辈的作家仍然在写，然后我和周围的一些年轻的作家也在写，我们还是都很想尝试很多新的不同的风格的科幻作品。
Et aujourd'hui, on peut dire que la science-fiction chinoise est beaucoup plus diverse qu'elle ne l'a jamais été, avec ces grands auteurs qui continuent toujours à écrire, cette nouvelle génération dont je fais partie.Mais qui essayons aussi de nous heurter et de nous essayer à différents styles et à différents sous-genres de la science-fiction.
Et je vais me tourner du côté de Taïwan, justement. Est-ce que c'est à peu près pareil pour les liens entre la science-fiction et Geek de Taïwan, donc production littéraire dans l'historique ?
Hello, I'm Gao Yifeng from Taiwan. I'm sorry I cannot speak French to say hello to all of you, but I try to use my mother language and let Guan to explain for me. 我想在台湾这个部分，其实刚刚那个郝博士已经有谈到了这个中国这一块的这个科幻的发展，但是在我的印象中，台湾跟科幻文学之间的关系似乎没有非常的出现一个很主流的这个书写过程，这部分倒是在大陆现在有非常清楚的就是科幻文学的发展，台湾其实一直没有，台湾有也是非常小众的，那更大一块是台湾现在因为台湾是一个非常小的岛屿，那这个岛屿非常仰赖来自于世界各地的讯息，那这样子的接收讯息的方式基本上让科幻这件事情可能从很早以前就进入到传统的文学小说创作里头， 那在台湾一直以来都是比较用传统的小说创作者的角度去接触科幻，然后创造出科幻小说这样子的过程，在与科幻文学接触。
Alors, Hao Jingfeng nous a parlé de l'histoire de la science-fiction en Chine. L'histoire de la science-fiction à Taïwan est un peu différente. Et encore aujourd'hui, la science-fiction à Taïwan ne fait pas partie des grands courants littéraires, alors qu'en Chine, c'est devenu vraiment un genre littéraire important, avec beaucoup de succès, avec une tradition qui commence déjà à être bien établie. Pour ce qui est de Taïwan, l'histoire est un peu différente. La littérature de science-fiction à Taïwan reste assez marginale, lue par assez peu de gens, finalement. La particularité, c'est que Taïwan étant une toute petite île, elle compte beaucoup sur ce qui vient de l'extérieur, et notamment la littérature, par le biais de la traduction. Et en fait, tout ce qu'on peut trouver finalement de science-fictionnel ou de science-fictif un peu à Taïwan se retrouve dans la plume d'auteurs dits de littérature générale. C'est-à-dire que beaucoup d'auteurs de littérature dite générale vont aborder des sujets habituellement abordés dans des récits de science-fiction, mais à travers des romans qui ne seront pas estampillés forcément science-fiction.
所以台湾在科幻文学这一块，就我自己的观察来看，其实有一点是比较特别的，特别就是仿佛没有一个非常主流的科幻文学的一个骨干在台湾发生。但是就我的记忆当中，台湾绝大部分的小说家他们创作的作品拉长来看，可能都有广泛的软科幻这样子的议题，在过去我阅读的经验当中。
Et d'après mon observation, comme je le disais tout à l'heure, même s'il n'y a pas vraiment une véritable littérature de science-fiction taïwanaise, beaucoup d'écrivains, et notamment contemporains, on peut trouver chez eux des traces de réflexions habituellement trouvables dans la science-fiction, et beaucoup d'entre eux lisent aussi beaucoup de science-fiction. Et même s'ils ne se présentent pas, ou si ce n'est pas affiché tel quel, à la fois sur la couverture ou dans un rayon de librairie, ça parle aussi de sujets qu'on aborde dans la science-fiction.
Est-ce que la science-fiction en Chine, par exemple, qui est une littérature très reconnue, est-ce qu'il y a un statut social d'être reconnu d'être auteur de science-fiction ?
以我自己个人的经验，至少在三年前，还是像您说的第二种情况，就是这个主流文学或者是纯文学领域是不是特别看重科幻文学？主流文学杂志也不肯登科幻小说作品，它就像是一个不进入这个严肃文学的一个范畴。但是这两年确实科幻文学在中国变得热门了一些，而且这个也是因为科技发展吧，很多人也越来越关心科幻作品。于是今年从去年到今年，有不少这种主流文学开始这个登载科幻小说，然后大学里面也开始研究科幻小说。然后我自己今年就有三个这个科幻小说登上了这种主流文学杂志，所以说正在发生变化。
En fait, c'est un changement assez récent. Jusqu'à il y a 2-3 ans, la littérature de science-fiction était plutôt vue comme de la sous-littérature, ou en tout cas pas de la littérature très sérieuse en Chine. Et on trouvait rarement des ouvrages scientifiques, enfin académiques autour de la science-fiction. Ça marche beaucoup par revues littéraires en Chine. Beaucoup d'auteurs publient leurs premières œuvres dans des revues littéraires. Et les revues littéraires, on va dire, générales, ou de littérature pure, comme on dit en chinois, n'acceptaient pas forcément beaucoup d'œuvres de science-fiction. Mais les choses changent depuis 2-3 ans, pour plusieurs raisons, notamment le fait que de plus en plus de gens commencent à se préoccuper des questions autour de la technologie et de l'avenir de l'humanité avec la technologie. Et donc on commence à reconsidérer la littérature science-fiction. Et depuis 2-3 ans, non seulement des revues littéraires dites générales vont accepter des œuvres de science-fiction, mais vous avez aussi des cours à l'université, des études faites sur la science-fiction en tant que genre.
Et en termes de marché du livre, pour un auteur de science-fiction, ça représente combien de lecteurs ? Enfin, c'est...
Concernant
科幻小说无论如何还算是一个比较小众的领域。通常情况下一个作者卖到可能一两万本就算还可以 还不错了，在科幻小说。但是和其他一些像青春文学，或者是在中国特有的这种玄幻，一种中国的 fantasy 的这种文学相比，可能还是一个比较小众的领域。
Alors, malgré tout ça, la littérature de science-fiction ne reste pas forcément la littérature la plus lue en Chine. Alors, après, c'est des chiffres chinois, donc évidemment, il faut toujours relativiser. Mais quand un auteur de science-fiction vend 10 ou 20 000 livres, il est déjà très heureux. Mais pour la Chine, ce n'est pas tant que ça. Par comparaison, des romans, ce qu'on appelle la littérature jeunesse ou la littérature de fantasy chinoise marche beaucoup mieux.
La science-fiction ne se limite pas à la littérature, il y a aussi le cinéma, le jeu vidéo. Est-ce qu'il y a d'autres médiums, la science-fiction s'exprime dans tous les médiums ou seulement en littérature ?
在中国科幻这个范畴其实还包括科幻美术，那么我就来谈一下这个有关科幻美术的一方中国大陆这方面的历史和发展。那么中国科幻美术呢，其实有两个很不同的分支，它是不同的年代来做这个节点的。一个是1978年到截止到90年代初，这个呢，中国的科幻美术是深深的受到了前苏联的科普美术的影响，然后我们涌现了一批以科普科学插画为主的一些艺术家来绘画，那个实际上是我们中国科幻美术的一个萌芽的开始。它是限于是在科普和科学方面，还没有完全的呈现的是科幻这个方面，刚刚开始萌芽。那么当时的画家的作品其实还是水平还是属于不是说特别高的水平，是这种状况，这是一个开始的阶段。
Alors pour ce qui est par exemple des arts visuels ou des arts plastiques, en ce qui concerne l'illustration par exemple de science-fiction,on peut aussi retracer un peu l'histoire à travers différentes périodes. Entre 1978 et le début des années 1990, l'illustration de science-fiction était plutôt tournée et très influencée par ce qui se passait dans l'ancienne Union soviétique, à savoir des illustrations dont la première ambition était, pareil, de faire de la vulgarisation scientifique. Donc on faisait appel à des illustrateurs un peu spécialisés pour faire des couvertures d'ouvrages scientifiques, de vulgarisation scientifique, etc. Mais le niveau n'était pas très élevé.
Alors, 接下来就是在90年代以后，中国大陆的科幻美术是完全受到了西方的科幻美术的这个影响，涌现了一大批的创文，就是美术的这个创作者。那他们的风格都比较偏向于欧美的这种科幻的风格。当时你像90年代的时候，那时候我上中学，那么我看过的最著名的就是在中国能看到的非常非常知名的那个画刊，就是科幻世界、奥秘还有飞碟探索，这是我每期都要看的。然后我就深深的被里面的插画所吸引，也是因为这个原因，我现在走上了就是说这个科幻的这个道路。那么 OK。
Alors par la suite, après les années 90, en Chine, alors c'est dans le domaine de la science-fiction en général, mais de l'illustration en particulier, on s'est mis à être beaucoup plus influencé par les œuvres américaines et européennes. Et donc ça s'est évidemment diversifié avec aussi l'apparition des magazines de science-fiction dont on parlait tout à l'heure, Le Monde de la science-fiction par exemple, Mystère, d'autres revues de science-fiction que je lisais personnellement beaucoup quand j'étais jeune et qui m'ont donné envie de travailler plus tard dans le domaine de la science-fiction. Et donc ça a commencé à se diversifier à partir de ce moment-là.
然后就是在2000年以后，那么随着这个时代的发展，这个 CG 这个技术引入了我们的这个传统的美术的绘画当中来，我们涌现了中国大陆涌现了非常大的一批是从业于是游戏美术行业的这个美术插画师，那他们的水平还有他们的从业人数是非常惊人的，然后在这个行业领域内呢，创造着非常很大批量的一个绘画作品，但是还是没有形成我们中国自己内地本身的风格，还是从香港漫画，就是我们俗称的港漫，到日漫，到美漫，那么我们都是在沿袭国就是说其他地区和国外的这些的风格。
Et alors par la suite, avec, au début des années 2000, c'est évidemment l'apport de la technologie dans la création artistique qui va être extrêmement importante, et le développement de l'industrie du jeu vidéo également, et donc beaucoup d'illustrateurs vont se spécialiser dans ce domaine. Mais là encore, on manque encore aujourd'hui d'une véritable particularité chinoise dans l'expression artistique, qui est très influencée par la bande dessinée à la fois aux États-Unis, au Japon, également un peu à Hong Kong. Mais voilà, pour l'instant, on manque encore d'une vraie esthétique, on va dire, nationale ou chinoise.
Est-ce qu'il y a justement, au-delà du dessin, est-ce qu'il y a un engouement aussi pour l'industrie cinématographique en termes...
我想先补充一下刚才郝博士和几位老师的一个关于中国科幻在中国市场大众还是小众的一个问题啊，就是尽管这几年来就目前来看中国的科幻还是一个小众的市场的一个阅读市场，但是呢就是它的加速度越来越快啊，这一点呢得感谢一下郝景芳女士还有刘慈欣先生，他们两位获得雨果奖，在中国成为一个热点事件，也让越来越多的人去关注科幻。
Pour compléter un petit peu ce qui avait été dit tout à l'heure sur le fait que la science-fiction est encore une littérature assez peu lue en Chine, les choses changent très vite et on peut remercier pour ça Hao Jingfang et Liu Cixin qui ont tous les deux remporté un prix Hugo pour le roman pour Liu Cixin, pour la meilleure novella pour Hao Jingfang, qui ont jeté un vrai, voilà, les projecteurs sur le genre aussi en Chine.
另外就是谈起科幻产业的这个问题，在中国是有一个很奇怪的现象，其实估计郝博士和那个我们的肖美女士也都比较了解，就是中国特别会容易在把某一类的市场和甚至于公司也好，它描述成一个产业，然后形成一个组织，比方说我们经常讲的科幻产业。
Alors, il y a une particularité un petit peu en Chine, c'est que ce sont souvent des entreprises un peu individuelles. Ben voilà, moi je vais m'occuper de telle science-fiction ou de telle forme d'expression science-fictionnelle, mais assez peu de synergie véritablement.
对，然后政府会把它描绘成一个产业之后呢，就会和它相关的约定俗成，它会形成这个概念。那我们目前来看，关于科幻产业有没有一个明晰的判断和概念呢？是没有的。但是我们以我们在深圳的经验，我们会认为它是科学幻想与未来和未来科技相融合的一个产业。因此在深圳这几年也经常提一个叫科技加文化，所以我们会把两者结合。这样的话，把科幻电影、科幻美术、科幻文学以及应用类的这个未来科技，会把它归到这一个领域里面来。
Et donc l'un de nos projets, puisque donc Monsieur Zhu et Madame Xiao font partie d'une fondation pour la science-fiction et la fantasy, c'est justement d'essayer de rassembler un peu différents efforts autour d'un même but, à savoir à la fois faire développer la science-fiction.Mais également dans toutes ces déclinaisons, à savoir à la fois les arts, la littérature, le cinéma, mais également des applications plus pratiques, technologiques, etc.
如果从这个角度来看的话，中国的科幻产业，它跟科幻文学它相互之间的关系的话，就是说，从这个角度来看，中国的科幻产业发展的速度是非常快的，并且越来越快。也因此，像现在就会更多的人来关注科幻这一块，从小众慢慢变成大众，它的加速度是显而易见的。
Et alors donc cette fondation à Shenzhen, elle participe d'un effort qui est de plus en plus visible aujourd'hui, dont on commence à voir les retombées, sur l'attrait qu'a la science-fiction, qui deviendra bientôt, grâce à tous ces efforts, à ces synergies, une grande littérature, à la place d'une petite littérature, en tout cas d'une littérature plus lue et plus écoutée.
Et en termes d'événements, justement, est-ce qu'il y a des prix littéraires? Est-ce qu'on commence à reconnaître la littérature? Au-delà, par exemple, que nous, nous sommes aux Utopias, on est un grand festival à la fois de littérature, mais tout média. Est-ce que la même chose existe en Chine?
Alors
effectivement, en Chine, on commence, et notre fondation notamment, à monter une sorte un petit festival, mais c'est surtout pour remettre des prix à travers différents médias, donc littérature, jeux vidéo, etc. Un prix qui s'appelle Morning Star. Il y a d'autres prix également qui existent pour la science-fiction en Chine.
刚才朱先生讲这个银河奖跟星云奖是中国国内比较大的两个奖项，这两个奖项每年的颁奖，围绕颁奖典礼也会举行类似这样的一个很大的集会。 这几年参加的人越来越多了，但是没有这么多的这个主题，可能就是几场主要活动。但是慢慢我是觉得像这样的这个科幻文学节，实际上是非常有利于大家发展这个科学科幻文化。现在也有一些互联网的比赛，比如一句话短科幻的竞赛，我也看见过一些。
Alors en fait, les deux grands prix de la science-fiction, littérature science-fiction en Chine, c'est les prix Galaxy et Nebula. Et lors de la remise de ces prix, il y a généralement des festivals, alors, dont la programmation n'est pas aussi riche et diversifiée qu'aux Utopiales. Mais voilà, quelques activités, quelques tables rondes ce jour-là. Et on voit chaque année que le nombre de participants augmente. Et puis à côté de ça, il existe aussi des concours, avec parfois thématiques, parfois avec des contraintes, en utilisant une phrase pour créer une nouvelle de science-fiction. Donc des concours auxquels j'ai déjà participé.
我补充一下，我们深圳呢，就是深圳是中国最具有未来气息的一个城市，因为中国的很多高科技的产业都落地在深圳。深圳每年会举办科技影视周，这个是中国科协和深圳市政府一起共同举办的活动。然后我们也基金也在其中承办了中国科幻大赛，这也在国内是比较知名的一个围绕产业，就是影视文学和美术举行的一个赛事。 我们是非常希望能够更多的这种交流，所以也这次有机会能够来到这个南特。我们也希望未来明年我们在举办这种科幻类的比赛的时候，能够让法国的这些科幻迷能够到中国体验我们中国人的热情啊。
Et donc, on organise aussi à Shenzhen. Shenzhen, qui est donc une ville dans le sud de la Chine, pas très loin de Hong Kong, qui est une ville connue pour, voilà, pour tout le développement technologique. En Chine, et nous organisons aussi notre fondation un festival de science-fiction avec des compétitions également, des concours. Et une des raisons de notre présence ici, c'est aussi de venir voir comment ça se passe dans un grand festival. Et donc l'année prochaine, on espère que voilà, des lecteurs français de science-fiction chinoise pourront venir nous voir en Chine et voir un petit peu ce qu'on fait.
对，我相信大家到了中国深圳之后，就会看到中国很多科学家、文学家、美术家，所有的人对于未来的想象，我相信想象是没有国界的。这个我们语言会相通，尽管我不会法语，谢谢。
Donc vous inquiétez pas au niveau du langage. De toute façon, quand on imagine le futur, il n'y a pas forcément de frontières nationales. Donc en Chine, vous pourrez voilà, venir écouter des scientifiques, des artistes, des romanciers vous parler de leur imagination du futur.
Et à Taïwan, sur Geek de Taïwan, est-ce qu'il existe des prix littéraires aussi, des événements qui rassemblent des lecteurs de science-fiction ou des spectateurs de films?
在台湾差不多在2002年的时候还是05年的时候就开始举办那个倪匡科幻文学奖，那个是台湾早期比较重要的一个文学奖。这个文学奖其实也是台湾大概科幻文学这个领域培育专门的作家的一块园地，那个时候是一个比较广泛的，就大家都会注意到也会看到的一个这样子的。
À Taïwan, il existe un prix qui s'appelle le prix Nikwang, Nick Wong, en petite parenthèse, c'est un auteur hongkongais de science-fiction très très populaire à la fois en Chine, à Hong Kong et à Taïwan. Et c'est ce prix créé en 2002 qui va susciter l'attention et la participation de nombreux écrivains en herbe ou plus confirmés.
台湾这边其实比较值得一讨论的一个点是台湾在接受科幻的这一块有很大一部分其实是来自于电影特别是来自于西方的电影像最早期的那个《银翼杀手》到后来的《侏罗纪公园》到后面的这个《阿凡达》甚至到最近期的那个Christopher Nolan的一些星际效应这些电影然后我觉得台湾在接收科幻文学或科幻的一些讯息，这些养成过程有很大一部分其实是来自于文学以外的就是大众媒介。那这是台湾很重要的一个吸收科幻的概念。那但是这个文学的养成也是来自于这边。那特别是近几年，包含我所知道的就有几位做台湾的作家的作品，其实是以科幻的方式翻译到法国。
Alors, à Taïwan, ce qui est intéressant au niveau de la science-fiction, c'est que beaucoup de notre connaissance de la science-fiction, de la culture science-fictionnelle qu'on se forge un peu à Taïwan, vient aussi de ce qui n'est pas la littérature et du cinéma notamment, du cinéma américain, depuis des films un peu plus anciens comme Blade Runner, mais en passant par Avatar ou les films de Christopher Nolan plus récemment. Et je sais que beaucoup d'écrivains, aujourd'hui, taïwanais, s'inspirent également de ces productions-là qu'on peut facilement rattacher à la science-fiction pour créer. Et paradoxalement, on trouve aussi en français des auteurs de science-fiction. Donc, enfin, on nous dit qu'effectivement, il y a un auteur de science-fiction qui était venu il y a 2 ans aux Utopiales, Dida Wei, avec son roman Membrane. Donc, en fait, on voit bien qu'il y a des écrivains taïwanais qui écrivent de la science-fiction.
Est-ce que la science-fiction chinoise et taïwanaise commence à se forger sa propre identité, en fait ? Est-ce qu'on s'affranchit un peu du point de vue américain, d'où est née la science-fiction, pour arriver à des spécificités purement asiatiques ?
先说一下，因为刚刚听到关有提到几位台湾作家的书翻译到法文了，这个其实我觉得刚刚提到，就是虽然我们台湾的科幻文学，特别是文学的某一些养成，是来自于一些电影或这种大众媒介，但是我知道，就像刚刚提到的三本小说，包含吴明义的《复眼人》。它其实是一个关注海洋环保的议题，纪大伟的《魔》其实是一个跟同志酷儿有关的一个科幻小说，包含我自己的《泡沫战争》，也是比较像是乌托邦式的一种科幻小说。那我觉得这三本都是有翻译成法文的。从这三本来谈刚刚主持人的问题的话，其实我比较看不到所谓这种好莱坞的或美国式的这种科幻的主流所影响的，并没有。
Alors parmi, en fait, on vient de parler tout à l'heure des romans taïwanais qui ont pu être traduits en français, des romans taïwanais, on va dire, de science-fiction, plutôt de soft science-fiction. On peut déjà voir, en fait, ces particularités culturelles. Membrane de Dida Wei, c'est un roman autour de la question de l'identité biologique, l'identité sociale, d'un activiste homosexuel, donc qui traite vraiment des questions de l'identité, à la fois sexuelle, biologique, sociale. Un autre roman, traduit en français également, L'homme aux yeux à facettes, de Wu Mingyi, qui s'intéresse à des questions plus environnementales, au vortex de déchets dans le Pacifique Nord. Un autre roman, celui qui vient juste de sortir en français, La guerre des bulles, donc de Gao Yifang lui-même, qui est plus une réflexion entre utopie et dystopie, sur des enfants qui prennent le pouvoir dans un faubourg de montagne. Toutes ces thématiques-là, finalement, elles ne sont pas forcément associées directement à une culture qui serait plus mainstream, hollywoodienne, etc. Donc on trouve déjà des voies particulières.
Et en Chine.
中国的科幻，有一部分可能想象，就是视觉上，还是会 有一点点像美国的一些科幻，但是其实我也觉得中国的 主流部分实际上很大程度上是脱离美国科幻的这种传统，大部分的中国科幻作品就是写的中国故事，里面有非常非常多的关于中国的社会现状、中国的家庭故事、中国的当代的一些时代发展变化，还有很多是关于中国的传统历史，所以我自己感觉说写中国人、中国当代现实的这种科幻故事，其实在中国现在的科幻文学里面是占多数的。
Alors effectivement, on a encore beaucoup d'aspects, surtout visuels, dans la science-fiction chinoise, d'éléments qui peuvent faire penser à la science-fiction américaine. Mais quand on y regarde de plus près, en fait, les romans chinois de science-fiction parlent beaucoup de la Chine, que ce soit des problématiques sociales contemporaines, que ce soit de l'histoire de la Chine, que ce soit même des éléments de la tradition culturelle chinoise. Donc en réalité, c'est avec ces différents éléments-là qu'on arrive à créer des voix un peu particulières.
我觉得中国现在的一些年轻作者风格是非常多样的，他们在探索的一些主题也是很多样，探索人与时间的关系，然后这个时空探索这个自我等等。而且呢，中国也有一个特殊的一个分支，就是写中国的这种古代的历史，有很多特殊的像穿越的科幻，就是进入中国古代王朝的历史，试图去改变历史，这种题材在也是相当独特的。
Alors, beaucoup de jeunes écrivains aussi de science-fiction chinois aujourd'hui font appel et essayent d'aller expérimenter dans beaucoup de genres différents.Et parmi les genres un petit peu à la mode en Chine et qui sont un peu particuliers, cette littérature qui se développe notamment sur le net, en fait, la cyberlittérature, avec des genres comme la littérature du voyage dans le temps, où le grand thème, c'est de retourner dans des dynasties impériales chinoises, donc grâce à différents artefacts, et de changer l'histoire. Donc un peu des uchronies, mais dans le passé chinois. Et donc tous ces nouveaux genres-là, ou sous-genres de science-fiction, sont aussi propres à la Chine.
我补充一下，就是，基本上还是有一个共识，就是中国的科幻受到美国好莱坞的科幻影响比较大，尤其是在科幻影视方面，确实我们都在受着这方面的影响，我觉得这是显然的。但是摆脱这样的影响，去寻找到中国式的科幻、中国的故事，也是我们的共识。所以现在显然，以往我们受到了影响，但是当下更多的年轻的科幻作家都想寻找中国的科幻故事。当然，我觉得这其中，郝博士是佼佼者了，因为《北京折叠》就是一个讲的中国的故事，并且获得了世界的认可。我们觉得中国的科幻故事才是，我们中国的科幻作家的使命。和我们更有生命力的文学作品。
Ouais, c'est un effort dans lequel tout le monde est en train d'essayer de s'engager, même si l'influence, notamment dans le domaine du cinéma de science-fiction hollywoodien, reste extrêmement prégnante. On essaye néanmoins, et notamment les jeunes créateurs, de trouver une science-fiction qui soit chinoise, ou en tout cas une science-fiction à la chinoise. Hao Jingfang en est un bel exemple, avec par exemple la nouvelle dont on a parlé tout à l'heure, donc Pékin plié, si on devait le traduire en français peut-être.Qui parle précisément de Pékin et de la Chine d'aujourd'hui.
好，那我从中国科幻美术这方面再补充一下。其实，在刚才我讲过的那个就是分年代的美术的发展来讲呢，到目前为止，中国的科幻美术方面还是存在着，大部分是在模仿这个美漫和就是。以前的这些日漫这种风格，那么通过我们这两年中国科学与幻想成长基金举办的这个中国科幻美术原创作品大赛，我们也会从全国的这些参赛的选手作品当中发现了有很多的一些90后、2000后这在校的学生，他们。就是说学艺术类的、绘画类的，他们有着非常独特的、特别的自己的想法和视角，也能够完全通过自己的原创创作出来，是非常迥异的，和其他任何门派都不一样的科幻类的作品，这是一个非常欣喜的一个现象。
Alors pour ce qui est par exemple des arts plastiques ou de l'illustration en général, même si on en a parlé un petit peu tout à l'heure, on reste encore aujourd'hui dans de, beaucoup d'imitations en fait, ou en tout cas d'influences directes venues de l'étranger. Mais d'après ce que nous on voit quand, dans notre fondation, des concours et des compétitions qu'on organise, on voit que beaucoup de jeunes créateurs nés dans les années 90 ou les années 2000 sont en train de proposer des choses vraiment différentes, que ce soit à la fois sur la forme, sur les thématiques abordées. Donc c'est vraiment en train de changer et les jeunes artistes sont en train de créer quelque chose de nouveau.
但是目前有一个对于从中国大陆的科幻美术的认知方面，其实在概念上有一个比较 confused 的一个地方，就是很多的中国的就是艺术家，他们会混淆魔幻、奇幻。 和科幻这个概念，从他们的绘画的作品体现的风格就看出来，就很多会把其他的掺杂在里面去混淆，没有说像西方这样分得很清楚。
Ce qui peut prêter un petit peu à confusion des fois, quand on d'un regard un peu extérieur, quand on regarde des œuvres picturales par exemple créées par des artistes chinois, c'est un peu le mélange des genres, c'est-à-dire qu'on peut avoir des œuvres qui mêlent allègrement magie, fantasy, science-fiction, sans forcément qu'on se pose trop la question. Et c'est vrai qu'en Occident, on a plutôt tendance à catégoriser un peu plus. Ceci appartient à la science-fiction, ceci à la fantasy, etc. Et en Chine, on est plus dans un mélange un petit peu des genres.
那我最后想补充的一句就是说，那目前中国科幻艺术家的这些他们的达到的水平已经达到了什么样的程度呢？实际上，通过我自己个人的就是经验，还有我所了解到的，就是我有很多的同事，我有很多的同行，他们不仅仅是在中国的这个就是美术创作方面在贡献着自己的力量，而且在包括像好莱坞、迪士尼、 那个新西兰的维塔，这些全球最顶尖的电影特效公司里面，他们都有在一线参与前期概念的设计和电影特效的制作，都是最顶尖的，就是现在我们可以看到的好莱坞的大片，我们中国的艺术家都有参与制作。
Alors, un des effets, un des exemples, des illustrations de ce niveau en fait que peuvent atteindre aujourd'hui les artistes chinois, c'est que beaucoup d'artistes chinois travaillent maintenant dans des entreprises d'effets spéciaux pour Hollywood, pour Disney, pour Pixar, etc. Et dans la plupart en fait des films de science-fiction, on va dire hollywoodiens, des blockbusters que vous voyez aujourd'hui, vous avez beaucoup d'artistes chinois qui ont travaillé à la conception du film, des décors, de l'illustration, etc.
Et d'un point de vue littéraire et de promotion justement à l'international, le fait d'avoir gagné commencé à avoir de la reconnaissance avec les prix gagnés, est-ce que ça aide à exporter la science-fiction? Est-ce que c'est un pivot moteur? Est-ce qu'il y a de la demande à l'international d'avoir des auteurs de science-fiction?
，我觉得肯定是帮助到的。就是当初刘宇坤，就是我们的翻译者，其实是翻译了中国作家的一批作家的很多作品，然后刚开始的时候只能在一些杂志上发表，想要出一个选集就会很难。但是现在我跟刘慈欣的作品获奖之后，去年这本中国作家科幻作品选集已经在英语国家都出版了，英国、美国、澳大利亚都可以买得到。就叫看不见的星球，然后这本作品大概这个市场反应还可以，现在有可能又在编辑第二本这个中国作品的出版。那么这个出版商， 他肯出版一个外国作家的这个科幻作品合集，还是在美国是挺不容易的，所以这也确实是在国外的市场，大家现在的欢迎度、认知度已经升高了一些。
Alors c'est vrai que pour ce qui est du domaine anglophone, par exemple, Ken Liu, qui a donc traduit la nouvelle à la fois et le roman qui ont été primés au Hugo, avait déjà traduit depuis déjà un certain moment un certain nombre de nouvelles d'auteurs de science-fiction chinois, mais qui paraissaient presque exclusivement dans des magazines, et c'était difficile de les promulguer, enfin, d'en faire des livres, des ouvrages publiés, édités. Et c'est vrai que depuis les récompenses au Hugo, il est beaucoup plus facile pour des auteurs chinois et pour leurs traducteurs de sortir des livres, des anthologies. Donc il y a plusieurs anthologies de science-fiction chinoise qui sont déjà sorties en anglais, en italien. Une deuxième anthologie est prévue également en langue anglaise. Donc bien évidemment, ces deux prix ont énormément aidé à montrer qu'il y avait de la science-fiction en Chine et donc également à... Voilà, faire la promotion d'auteurs de science-fiction chinois à l'étranger.
Il va nous rester une dizaine de minutes. On va vous passer la parole si vous avez des questions. C'est le moment. N'hésitez pas à lever la main.
Il n'y a personne pour le micro.
Bonjour.
Levez bien la main pour qu'on vous voit,
ouais.
Je crois.
Bonjour, ouais, j'ai un micro, moi, ici.
Oui, bonjour, on ne vous voit pas, c'est pour ça.
Pas de souci. C'était pour répondre un peu à ce que vous disiez à l'instant, en parlant de la popularité en fait, des œuvres à l'étranger. Je voulais vous poser directement, je pense à Gwenaëlle, la question. Au niveau des traductions, comment ça se fait que ce soit aussi long aujourd'hui de traduire des ouvrages asiatiques? Est-ce que ça va durer? Est-ce qu'on peut réduire ce temps? Et en particulier, vous qui avez traduit The Three Body Trilogy, presque 10 ans pour traduire un bouquin aussi extraordinaire, c'est assez frustrant, je pense, pour beaucoup de lecteurs européens, etc. Donc, est-ce que vous pouvez un peu répondre à tout ça, s'il vous plaît, merci.
Je vais leur traduire en chinois, puis je vous réponds après. Oui, alors en fait, en France, c'est vrai qu'on est un petit peu plus lent. On a l'impression qu'aux États-Unis, où ça avait vraiment été un grand boom, il y a des tas de raisons en fait, qui peuvent l'expliquer, sociologiques, éditoriales, etc. Pour le problème à trois corps, je vous donne un exemple de mon expérience. J'avais suggéré la trilogie il y a déjà quelques temps, je pense avant qu'elle ait été traduite en anglais à des éditeurs, mais en même temps, il faut se mettre à leur place. Vous arrivez avec une énorme trilogie de science-fiction chinoise, évidemment, on fait un peu les gros yeux, où on se demande si ça va marcher, ça me paraît logique en fait. Donc à l'époque, ça n'avait pas forcément matché. Et puis après, le processus s'enclenche. Quand on voit qu'il y a des œuvres en anglais, ce qui permet aux éditeurs aussi d'avoir une certaine visibilité en fait sur l'œuvre en question, puisque la plupart des éditeurs français, je pense, ne lisent pas le chinois, donc ils attendent parfois d'avoir le texte en anglais. Donc il y a parfois ce décalage dans le domaine de la science-fiction en tout cas. Dans d'autres domaines, pour la littérature chinoise, taïwanaise, pendant longtemps, la France a été en avance en fait sur les États-Unis. Les États-Unis, par exemple, publient assez peu en fait, de littérature chinoise et taïwanaise, et la science-fiction fait presque office d'exception. Et il y a presque plus de romans, si vous voulez, chinois de science-fiction publiés aux États-Unis que de romans chinois de littérature dite générale. C'est l'inverse en France. Pour ce qui est de pourquoi est-ce que c'est un peu lent, pourquoi ça peine un petit peu à prendre pour l'instant, bon, c'est en train de prendre, je pense, mais... Il faut avoir aussi des traducteurs, des éditeurs qui sont prêts à traduire de la science-fiction. Je sais que tous les traducteurs du chinois vers le français ne se sentent pas forcément ou ne sont pas forcément intéressés pour traduire de la science-fiction chinoise vers le français. Donc il y a une toute petite communauté qui est en train de se mettre en place, mais qui va certainement grandir, donc on espère. Sinon, il faut me cloner. Voilà.
J'avais une question, alors c'était plutôt orienté cinéma. Je voulais savoir si en Chine il y avait déjà eu des productions à gros budget, science-fiction ou même des tentatives, dans le passé ou dans le futur, éventuellement déjà en ce moment.我觉得这个问题很尴尬，因为真的我想说实话，就是觉得没有，因为其实我们一直非常期待的三体的作品，其实后来也遇到了很多的困难，所以一旦做到科幻电影的时候，它是有的时候我们羡慕好莱坞，是因为好莱坞的科幻电影它整个运作的机制非常成熟，在中国呢，它特效科幻文学包括电影的投资的机制呢，相对来说它的没有那么成熟，所以做起科幻电影这样的大制作的时候，它失败的可能性更高，所以目前还没有一个爆发性的成功的案例出来，所以我们在中国做科幻的人经常讲说。
太艰难了，就是我们这一代人可能会，中国有句老话叫长江后浪拍前浪，前浪死在沙滩上，就是觉得我们这一代人可能会被拍死的那一代人，但是可能因为我们很热爱科幻，我们还愿意去尝试，但我们也不知道幸运哪一天这个苹果会掉到谁的头上，谁会做成成功的那一个。
Alors c'est une question un peu embarrassante à laquelle répondre, dans le sens où pour l'instant il n'y a pas eu encore de très grandes œuvres de science-fiction, enfin de films de science-fiction en Chine. On attend depuis des années l'adaptation au cinéma du problème à trois corps et de la trilogie, mais il y a des tas de problèmes rencontrés au cours du tournage, de la post-production. On est parfois admiratif devant le cinéma hollywoodien, mais c'est un cinéma extrêmement mature dans tout son, fonctionnement en fait. Depuis le scénario, en passant par les effets spéciaux, la production, etc. Et en Chine, on n'en est vraiment pas encore à ce niveau-là. Et donc, on en plaisante souvent entre nous qui aimons la science-fiction en disant que si ça se trouve, avant que la pomme tombe sur la bonne personne pour le bon film de science-fiction, on sera peut-être déjà mort. Mais on essaye, en tout cas.
我补充一两句，中国的科幻电影其实在80年代、90年代还曾经有一些还不错，讲了挺好的故事，但是它就完全没有引入像现代电影工业这样的特效，而真正引入这种大特效、大制作的电影呢，反倒都失败了。可能是因为中国这个电影工业还不太成熟，一个科幻电影大制作它有很多环节要配合，所以是现在是一个比较艰难的阶段。这一两年，今年到明年会有一些新的片子出来，我自己有几个小说现在在被改编，电影过程中，但是离真正成熟可以制作还很远。我也听到这些电影团队都在试图跟国外去学习一些更优秀的管理经验。
Alors, pour compléter, il y a eu en fait des films de science-fiction des années 80-90 en Chine qui étaient très bien, mais pas du tout dans l'image du blockbuster de science-fiction, donc sans véritables effets spéciaux, etc. Et c'est vrai que chaque essai de faire un blockbuster de science-fiction s'est avéré un petit peu un échec en Chine. Ça montre que effectivement l'industrie du film, en tout cas des cinémas, enfin, du cinéma un peu blockbuster, n'est pas encore très mature. Les choses sont en train un peu de changer. Plusieurs romans, parmi les miens, ceux de Rodding Fang, vont être adaptés au cinéma, en film. Et je sais que, donc elle sait que les équipes de tournage vont aussi se former à l'étranger. Ils vont essayer d'apprendre un peu à ce qui se fait à l'étranger, aux États-Unis notamment, pour essayer de, voilà, de créer quelque chose d'un peu plus solide.
Ah d'accord, excusez-moi. Donc j'aurais voulu savoir pourquoi utiliser la soft effet science-fiction, parce que la plupart des romans que j'ai lus de la culture asiatique se passent dans 40 ans, 20 ans, mais quelque chose de très proche, et pour critiquer ce qui se passe en ce moment. Alors pourquoi utiliser ce mode, cette littérature, plutôt que quelque chose de plus classique ?
在中国其实有很多个文类里面都会涉及到政治，不仅仅是科幻这个小说这一个领域，你在中国看到侦探小说、历史小说里面它也是会涉及到一些政治，可能就是在这样的一个环境中，科幻小说其实哪怕是在欧洲、美国也经常会涉及到这个政治制度，经常它就是对于政治制度的一些幻想，它是科幻小说的一个内核。所以我倒是觉得科幻小说本身和探讨一个政治制度这个是有天然的这个亲缘关系。但是科幻小说和其他的小说非常不一样的是，它可以探讨一种不一样的可能性，就是它可以把这个假设这个世界不是像现在这样，而是换了一种可能性会怎样，这样的话就像一个思想实验一样，非常容易让大家去做一些有趣的探讨。
En réalité, en Chine, il y a beaucoup de genres dans lesquels la question politique est centrale, que ce soit en science-fiction, dans le polar, dans la littérature plus générale. L'un des attraits de la science-fiction, ce qui fait que la science-fiction s'empare aussi souvent des questions politiques, c'est évidemment bon, l'imaginaire du futur, de ce que ça peut devenir. Ce qui est intéressant aussi, c'est que la science-fiction permet d'imaginer une alternative. C'est-à-dire, qu'est-ce que serait le monde s'il n'était pas comme ça ? Quel type de monde pourrait exister autrement ? Quel type de système ? La science-fiction, c'est un peu une expérience de pensée. C'est-à-dire imaginer quelque chose qui soit différent de ce qui est aujourd'hui. Et c'est en cela que la science-fiction peut être politique.
Je vais prendre juste une dernière question rapide.
Est-ce que tu veux laisser Gorifon, peut-être ?
Oui.
我就说一下，就是刚刚因为那个哈老师已经有提到了科幻本来就非常合适作为一种政治批评性的寓言式小说，那它本来就是一个合适在小说文本上面运作的一个文类，就我举我自己的例子好了，因为就刚好在这个月出版的法文版的泡沫战争，它刚好就是谈到一群。 年轻的孩童组成军团，然后攻占了一个社区，把这个社区的大人、成人，把它整个重新再管理，为了去解决水的资源，还有求生存如何对抗野狗的一个故事。刚好这本书出版的时候，就碰到了台湾一个很重要的学运，然后其实这个小说本身跟学运并没有直接的关系，但是因为出版的时间就在学运发生的这个月份，所以当时就。 被台湾的文学评论家就是在评论上面就引述成是一个青年反抗政治的寓言小说，所以这是一个巧合。但是从这点来看，其实台湾一直以来都有透过小说去沟通政治批评的这一个传统，在过去以来一直都来。所以我觉得不单单是科幻，其他的文类在台湾文学作品当中，其实一直以来。
Oui, alors pour moi également, la science-fiction a tout ce caractère politique dans son côté anticipatoire. Pour prendre mon exemple, le roman qui est donc La guerre des bulles, qui vient d'être publié ce mois-ci en français, raconte l'histoire d'un groupe d'enfants qui va renverser le système donc d'autorité des parents dans un faubourg de montagne pour résoudre à la fois des problèmes de ressources en eau et lutter contre les chiens sauvages du faubourg. Et donc cette histoire qui raconte donc cette rébellion des enfants contre les parents a été publiée à Taïwan en 2014, exactement au même moment ou de façon simultanée avec un mouvement étudiant dont vous avez peut-être entendu parler, le mouvement des tournesols, où des jeunes étudiants ont occupé le parlement taïwanais pendant plusieurs semaines. Alors en soi, le roman, étant donné qu'il a été publié en même temps que le mouvement étudiant, n'avait pas de lien direct, c'était une coïncidence. Mais en même temps, c'est là où on sent aussi toute la force de la science-fiction comme récit d'anticipation. Et alors de tout temps, dans la littérature taïwanaise, le roman, pas que de science-fiction, s'est emparé des questions politiques. Taïwan n'a pas tout le temps été une démocratie. Et longtemps, le roman a été l'un des moyens de faire passer des messages politiques.
On n'aura pas le temps de prendre une dernière question puisqu'il faut les conférences enchaînent. On vous remercie tous d'être venus aussi nombreux pour ce panorama de la littérature asiatique. On vous souhaite une bonne fin d'après-midi, un bon festival et vous pourrez retrouver les auteurs en dédicace durant le festival. Bonne journée à vous.